Bonjour, Raymond Brichard au micro. Eh bien, nous nous retrouvons avec Michel Bourgès-Monory pour l'émission Bienvenue en Europe. Alors voilà, eh bien, Bienvenue en Europe, qui en ce moment va mal, dirons-nous. Et pour une première partie de l'émission, nous suivrons l'actualité. L'actualité, c'est bien sûr la conférence sur l'avenir de l'Europe. C'est les projets qui étaient faits pour la présidence française, mais tout cela était largement impacté par, d'une part, le coronavirus, mais ça n'est pas nouveau, et puis, surtout, par la guerre en Ukraine. Alors, eh bien, au travers de cette actualité qui finalement est très dure, eh bien, nous allons essayer quand même de trouver quelques chemins pour éclairer la situation. Et puis, nous sommes au moment où nous enregistrons, à la veille de, au moment des élections françaises, et nous pensons qu'il est intéressant de savoir, indépendamment de premier tour, deuxième tour, comment se situent les candidats sur l'échelle des élections par rapport à l'Europe. Alors tout d'abord, peut-être, suivons l'actualité.
Oui, bonjour Raymond, bonjour chers auditeurs. L'actualité, c'est essentiellement, comme vous vous en doutez, le conflit en Ukraine, l'invasion par la Russie de ce territoire qui est proche à nos frontières. Ce qui est vraiment étonnant, c'est quand même de voir que l'Europe est restée vraiment unie par rapport à tout ce qui se passe de dramatique là-bas et a pris toute une série de sanctions inimaginables il y a peu, et venir en aide non seulement au peuple ukrainien, accueillir des réfugiés de ces territoires et également de fournir des armes et des moyens financiers pour que l'Ukraine puisse faire face à cette invasion dramatique. Alors, et chaque jour, évidemment, on apprend qu'il y a de nouveaux drames qui se passent. Ce qui est étonnant, c'est de voir que le président ukrainien, M. Volodymyr Zelensky, garde le contact par visioconférence avec l'Occident, et notamment au niveau européen. Et il s'est adressé récemment à la fois au Parlement belge, danois, néerlandais, norvégien, en dehors de l'Europe, l'Australie,
fait le
tour des capitales pour leur demander de venir en aide. Et on essaie de faire le maximum précisément pour l'aider. Ce qui est également...
C'est réjouissant, mais c'est inquiétant aussi.
C'est
parce
tout à
que...
fait inquiétant, c'est sûr.
Parce que fournir des armes, quelque part, c'est quand même entrer dans la guerre, non?
Il y a, à l'heure où on vous parle, des décisions qui ont été prises, notamment par la République tchèque, d'aller fournir tous les chars qui étaient à leur disposition, les envoyer par chemin de fer en Ukraine. Donc il y a toute une série de choses, sans parler de tous les drones et tous les matériels militaires qui transitent, on ne sait pas trop par quelle voie, parce que, évidemment, il ne faut pas trop le révéler par rapport à l'adversaire russe, mais en tout cas il y a un effort considérable qui est fait par tous les pays européens, en dehors naturellement de ce que peuvent faire à distance les États-Unis. Mais parallèlement à ça, il y a aussi un engagement, je dirais, plus symbolique et politique, mais qui mérite quand même d'être souligné. Eh bien, par exemple, il y a eu des visites directement à Kiev, donc la capitale de l'Ukraine, par des personnes importantes au niveau européen, en particulier la présidente du Parlement européen, Madame Roberta Metsola, est allée à Kiev le 1er avril.
Oui. Madame
von der Leyen,
Monsieur Charles Michel
au moment
aussi.
Où on parle, elle doit être peut-être à Kiev, en tout cas c'est prévu. Madame von der Leyen avec Monsieur Joseph Borrell, le représentant des affaires étrangères pour l'Europe, donc vont se rendre à Kiev, et au moment où notre émission sera diffusée, on aura peut-être des informations à cet égard. Mais il y a donc toute une série de prises de position officielles pour montrer que l'Europe est là.
Et même l'Angleterre, le Royaume-Uni, je veux dire.
Exactement, qui n'est plus au niveau de l'Union européenne, mais qui est là. Donc tout ceci est important à souligner pour montrer qu'il y a quand même une grande solidarité, d'autant plus que... On ne va pas revenir encore sur cette question de fond, mais est-ce qu'on est à la veille d'une troisième guerre mondiale ou non? Parce que c'est quand même la position qui se pose. Alors après, on peut jouer sur les mots. Est-ce que on considère que tel acte, il faut tout de suite s'engager non seulement sur le plan politique, mais également plus directement au plan militaire, etc. Parce que les exemples de l'histoire montrent que malheureusement, face à des dictateurs, eh bien, normalement, quand on les arrête, c'est pas toujours par les négociations, c'est même pratiquement jamais par les négociations. On arrive à amoindrir un peu les effets, mais c'est malheureusement par la force. Et par la force, donc il faut aider les Ukrainiens autant qu'on le peut, mais si on n'y arrive pas, quelle serait la suite? Donc on est là avec une grande incertitude qui nous rappelle tous les souvenirs douloureux du passé européen, et cela fait évidemment frémir. Et c'est là que, plus que jamais, l'Europe a besoin d'être forte et unie. Sur ce fond d'informations que l'on voit jour après jour, avec à nouveau des catastrophes et des drames, contre le caractère humain par rapport à tout ce qui est normal de ne pas se faire, eh bien on s'aperçoit que les Russes ne respectent absolument rien. C'est quelque chose qui est vraiment très très préoccupant.
Donc, est-ce que ça n'est pas antinomique de dire droit et guerre? Parce que finalement, quand on fait la guerre,
il n'y a pas de droit.
Disons
que sur le plan humanitaire, s'en prendre directement aux populations et pas directement aux armées ennemies, entre guillemets, ça fait quand même...
Oui, ça ne se fait pas.
C'est normalement, ça montre une certaine proportion à vouloir véritablement montrer que tous les moyens sont bons, y compris les pires. Parce que là, ce qui est entrepris vis-à-vis de l'Ukraine, c'est... On ne peut pas parler d'un génocide.
C'est la violence à l'état pur, et c'est ce qui ne permet plus après de négocier.
Alors, bon, voilà quel est le fond de l'actualité, malheureusement, européenne. Alors, parallèlement à tout cela, il y a le problème vis-à-vis de la Russie. Enfin, on peut en revenir lors de notre discussion de ce jour, mais il y a le problème de quels moyens l'Europe, au-delà des sanctions qui ont déjà été prises, devrait aller. Donc chaque fois, il y a de nouvelles sanctions qui sont mises sur la table, mais ces sanctions-là, ce n'est pas ça qui va faire arrêter la guerre, sinon qu'à terme, évidemment, la Russie va se trouver très mal. Un des moyens les plus radicaux à l'heure actuelle, ce serait de couper le robinet du gaz qui nous alimente. Et là, évidemment, on se rend compte qu'on est très dépendant de ce gaz russe. Donc il y a des décisions qui ont été prises au niveau européen de dire que d'ici la fin de l'année, on va couper les deux tiers de cet approvisionnement. Et on va arriver à surmonter le choc. Mais en attendant, on est là aujourd'hui. Et on sait que ce soit les pays du Nord, les pays baltes et l'Allemagne en particulier sont très très dépendants. Ceci étant, il faut remarquer que les pays baltes ont d'ores et déjà décidé de stopper, de couper le gaz qui vient de Russie, alors qu'ils en sont très très dépendants. Mais ils ont obtenu, avec l'aide de l'Europe, de l'Union européenne, un approvisionnement parallèle avec du gaz naturel
liquéfié
qui vient en particulier des États-Unis. Donc il y a toute une série de mesures qui sont prises, mais c'est à remarquer que ces pays nordiques qui ont de très mauvais souvenirs de l'occupation soviétique sont prêts à des sacrifices en disant « tant pis si ça nous coûte, on refuse de prendre ce gaz russe ». Donc là, c'est quand même pas évident, mais ça a été pris. Alors parallèlement, il a été décidé au plan européen de couper d'ores et déjà l'approvisionnement en charbon.
Oui, alors le charbon, c'est fait.
C'est fait.
Alors c'est justement ces trains de sanctions. Moi, je voyais, on prend des sanctions. Alors, il y en a toujours à prendre. Donc ça veut dire qu'en fait, les premières qui étaient prises, c'était un peu formel.
C'est vrai, mais... Ben, c'est-à-dire que c'est à la fois symbolique et formel, mais il faut dire et rappeler que la Russie est un pays qui n'est pas du tout riche, qui est un pays pauvre à la limite, qui est immense, c'est un des plus grands territoires du monde dans un État. Et le niveau de la Russie au niveau économique, c'est l'équivalent, même pas de l'Espagne. Donc il ne faut jamais oublier ça. Donc la Russie est un grand colosse, mais qui n'a pas beaucoup de moyens.
Qui n'a pas beaucoup de moyens, mais qui a la bombe atomique.
Oui, malheureusement, ça aussi. Et quand on est dirigé par, dans des régimes qui ne sont pas démocratiques, comme on le sait, celui-là en particulier, eh bien, tous les risques sont là, évidemment. Alors, bon, voilà donc cette...
Alors, en positif, on dirait, résumons quand même en positif, la solidarité européenne qui joue, et la solidarité européenne qui joue, y compris pour... soutenir les pays qui sont en première ligne, soit pour l'accueil des migrants, soit pour l'application réelle des sanctions, donc soit pour acheminer ce dont l'Ukraine a besoin.
Et des moyens ont été pris vraiment pour soutenir tous les réfugiés, etc. Et donc ça, c'est vraiment... Et encore, on doit le rappeler, le dirigeant russe, M. Poutine, était persuadé que l'Europe était... fragile et qu'elle ne tenait pas et qu'elle serait divisée. Or, c'est exactement l'inverse qui s'est produit, c'est que même les pays qui étaient, et on pense en particulier à la Hongrie, pro-russes d'une certaine manière, n'ont pas osé aller contre ce qui s'est passé. Donc, il y a eu une unité du territoire européen. Donc ça, c'est quand même important à souligner.
Il se rappelle peut-être un passé récent, parce que la Hongrie a été réoccupée après la Seconde Guerre mondiale, je veux dire.
Donc il y a eu toute une série, au niveau historique, d'événements qui sont produits et qui montrent que là, M. Poutine a cru qu'il allait arriver à Kiev sous les bravos d'une foule en liesse pour l'accueillir comme un libérateur. Et c'est exactement l'inverse qui s'est produit. Et l'Europe, qui était vue comme fragile, en fait, n'a jamais été aussi forte sur le plan de la solidarité et de l'unité.
Pas moins qu'il faudrait quand même essayer de réduire la dépendance énergétique et qu'une des premières manières, c'est peut-être de faire attention à son, disons, baisser de 1 degré son chauffage.
Oui, il y a ce genre de mesures. Il y a toute une série la Commission européenne a fait toute une série d'études à ce sujet et doit présenter d'ailleurs un programme très concret pour parvenir justement à couper des trois quarts, en tout cas des deux tiers, de l'approvisionnement de gaz en provenance de Russie, en misant sur des investissements considérables au niveau européen pour créer des stockages de gaz liquéfié pour avoir une autonomie considérable. D'ores et déjà, il est demandé à tous les pays qui ont déjà des stocks, la France en particulier les a, mais la France est un peu dans un cas particulier, on le sait parce qu'on en a souvent parlé ou dans tous les médias. On a aussi le nucléaire qui nous permet de ne pas être dépendant autant que d'autres pays de ce qui se passe du côté du gaz russe. Mais donc il faut investir, non seulement dans les énergies renouvelables, mais en attendant, il faut essayer de le plus vite possible être indépendant. Donc il faut renforcer l'indépendance de l'Europe, il faut renforcer la défense de l'Europe aussi face à ce qui se passe. Et donc il y a des décisions qui ont été prises au niveau européen, comme jamais. On l'a déjà aussi rappelé, je crois, l'une ou l'autre prise. Le nouveau gouvernement allemand a débloqué des fonds considérables pour le réarmement de l'Allemagne.
Pour la défense de l'Allemagne,
etc. Alors il y a tout un fond de choses qui se passent. Sur le plan... des réfugiés ukrainiens, on l'a évoqué, beaucoup a été fait. On a débloqué des fonds considérables. La Pologne, en première ligne, a accueilli des millions de réfugiés ukrainiens. La Pologne et la Hongrie, on les aide considérablement. On a débloqué des moyens en particulier pour accueillir les réfugiés sur un plan administratif. Qui puissent être accueillis tout de suite avec un document qui leur permet d'être, non pas en permanence, mais en tout cas tout de suite, avoir immédiatement un accueil avec des papiers. Et également au niveau des financiers, on leur a permis de convertir à un taux tout à fait intéressant leur monnaie nationale pour l'avoir en euros. Donc tout ceci est quand même à souligner. Alors après, aussi au plan européen, on a décidé qu'il fallait absolument mettre le paquet pour que l'alimentation sur le plan de l'agriculture, il fallait prendre des mesures, quitte, sans trop le dire, à contourner un peu certains programmes écologiques qui limitaient certaines productions alimentaires pour que, précisément, par rapport au manque de blé ukrainien et d'autres...
Et du blé russe.
Blé russe, qu'on puisse avoir plus que jamais une indépendance européenne, là aussi.
Alors, il y a l'indépendance européenne, mais il y a aussi les autres pays du monde, parce que finalement, quand on voit beaucoup de blé russe ou ukrainien, est exporté vers l'Afrique. Donc, est-ce qu'on peut aussi... Ça me paraît aussi... On s'aperçoit... Au travers de cette guerre, qu'on est dépendant les uns des autres, puisque même si on fait la guerre, en fait, on paye en même temps les armements qui font la guerre en payant la facture de gaz. Donc, guerre ou pas guerre, il y a une interdépendance entre les pays. Mais alors, vis-à-vis des pays les plus pauvres, ça devient catastrophique.
Oui, c'est ça.
Alors là aussi, j'ai observé que la Commission européenne... Regardez aussi l'aide au développement en disant, eh bien, on ne peut pas non plus laisser crever de faim les gens qui sont au sud du Sahel,
oui,
par exemple.
Vous avez raison de souligner ça. Et là, l'Europe est vraiment attentive à ce qui se passe là et a prévu justement de venir en aide à tous ces pays. Alors, les moyens, on va les mettre en place. On va voir comment faire. Mais évidemment, tout ceci est à long terme. Ce qu'il faut, c'est d'abord tout de suite faire pallier au plus pressé. Mais également, que ce soit pour les stockages de gaz, etc., c'est pour prévoir, avec aussi l'alimentation, avec les futures semences, pour obtenir des productions de blé en particulier, que l'on puisse voir comment, à partir du prochain hiver et de l'année prochaine, comment est-ce qu'on va pouvoir subvenir à tout cela.
Oui, c'est alors, ça, se nourrir.
De se nourrir, et sur le plan mondial aussi. Donc il y a toute une série de mesures qui sont en prévision et qui sont discutées. Et il y a de nombreuses, justement, négociations au plan international pour voir comment réorienter dans ce monde de commerce au-delà des frontières nationales, comment est-ce qu'au plan international, on peut réorienter l'ensemble du commerce international en dehors de la Russie.
Donc, non, c'est vrai aussi,
c'est toute une réorientation qui fait que, à terme, la Russie sera, ça, à terme, elle risque d'être vraiment complètement isolée, donc tomber dans une pauvreté.
Est-ce que c'est souhaitable ?
Non, ce n'est pas souhaitable, mais en attendant, il n'y a pas moyen de faire autrement.
Parce que finalement, la solution du désespoir, c'est si vous nous acculez à la famine, on peut vous acculer à la mort.
Ben, on verra, mais bon, sur le plan militaire...
C'est pour ça, il me semble que la solution après, des négociations... Alors, il y a effectivement quand même... les volets. Ce qui est intéressant, c'est de voir que toujours les gens se parlent. Mais...
Oui, ben, ce qui est préoccupant, c'est que compte tenu aussi de la dimension symbolique, certain nombre de choses, et notamment lorsqu'il s'agit d'un conflit pareil, inimaginable... depuis la dernière guerre mondiale, hein, il faut bien le reconnaître, au niveau européen en tout cas, il y a aussi savoir que le 9 mai prochain, qui est la fête de l'Europe, hein, là on pourra y revenir aussi, la déclaration Schuman du 9 mai de l'Europe, qui a mis en place les bases de ce qui fait maintenant notre Union européenne, mais c'est également la date au niveau russe,
de la fin de la Seconde Guerre mondiale.
Donc, c'est la victoire russe contre le nazisme. Et donc, M. Poutine, selon tout ce que l'on entend dire, il veut absolument que le 9 mai, il puisse arriver comme un grand vainqueur vis-à-vis de son pays pour dire, regardez, nous sommes forts, nous avons vaincu les nazis d'Ukraine, alors qu'il n'y a pas de nazis en Ukraine, évidemment, mais bon, ça, c'est un discours. Mais ça fait frémir, parce que ça veut dire que le 9 mai, il risque d'y avoir, sur le plan militaire en Ukraine, des événements assez inquiétants qui risquent de se
violence
produire.
L'Ukraine a été occupée en 2014. Je crois que là, on avait l'impression que c'était que des choses étaient en statu quo. Il n'y avait pas de règlement.
Il y a eu un règlement, mais qui n'a pas été respecté.
Oui, c'est ça, voilà.
Donc, et en particulier par la Russie. Donc, on verra tout ce que cela veut dire.
Oui, c'est ça.
Donc,
je veux dire que c'est là le...
Au stade où on enregistre cette émission, on est toujours dans cette incertitude et qui évidemment pousse à l'inquiétude.
Alors,
et plus que jamais donc,
pour
il faut dire que notre seul moyen que l'on a pour avoir de l'espoir, c'est de renforcer l'Europe. Donc, plus que jamais, il faut que l'Europe soit là, forte et indépendante, souveraine, mais en même temps humaine et ouverte au monde, et en particulier aux misères du monde, et évidemment se donner les moyens pour qu'elle-même puisse
et vivre peut-être tenir compte aussi du peuple russe qui n'a pas demandé cette guerre non plus.
Évidemment.
Enfin bon, alors, on avait dit aussi, parallèlement, comment se situe, puisque nous sommes quand même en période électorale en France, c'est que l'émission va passer entre les deux tours de la présidentielle. Et lorsque notre prochaine émission, nous aurons un nouveau président de la République.
En ce qui concerne...
Voilà, la situation des candidats par rapport à l'Europe, en les passant tous en revue.
C'est intéressant de souligner qu'il y a eu une...
Étude européenne, pas une étude française.
Une étude qui a été faite au niveau de cette élection en France. Il y a 6 organisations européennes, je les cite, Europa Nova, Confrontation Europe, Mouvement Européen, Institut Jacques Delors, Europartner et la Maison de l'Europe de Paris, qui ont mis en place une agence de notation chargée d'évaluer le volet européen des programmes des principaux candidats à l'élection présidentielle. Ils ont créé une agence qui s'appelle l'agence EEE et qui, de manière scientifique, a examiné les programmes des candidats et a établi un classement par rapport à l'Europe, c'est-à-dire dire...
Le sentiment européen de ces candidats.
Candidats, dans leur programme, qu'est-ce qui est en faveur de la construction européenne? Est-ce qu'il y a des initiatives pour aller plus en avant ou au contraire aller en arrière ou bloquer? Et donc, avec un triple objectif, c'était d'une part d'analyser l'ambition ou non de leur programme européen, d'autre part d'évaluer l'eurocompatibilité de l'ensemble de leurs propositions, et puis enfin de susciter des débats de fond. Sorte que l'Europe soit mise sur le devant de la scène lors de cette campagne. Donc ces 3 éléments ont été étudiés et il y a un classement. Le classement, évidemment, on le devinait, mais c'est une confirmation. Donc, c'est une étude quand même indépendante et cette étude, elle montre, selon le classement, qui est avec des notes sur 20, on a les derniers... de la liste, donc les moins européens. Les moins européens, ce sont M. Zemmour, Éric Zemmour, qui n'a que 2 sur 20 par rapport à tout ce qu'on vient de dire. Marine Le Pen, qui a 3 sur 20, qui est juste à côté de lui, de M. Zemmour. Et M. Jean-Luc Mélenchon, qui, lui, a 6,5 sur 20. Puis après...
C'est le double.
Le double. Mais bon, et puis après, alors, si on prend dans l'autre ordre, on a en premier, on a M. Macron. En deuxième, on a M. Jadot. En troisième, on a Mme Hidalgo. En quatrième, on a Mme Pécresse. Et alors après, on a en cinquième, M. Roussel, donc communiste. M. Jean-Luc Mélenchon qui suit. Mme Le Pen. Et en fin de compte, M. Zemmour. Donc voilà, ce sont ces candidats qui ont été examinés principalement parce qu'ils représentaient, d'après les sondages, un certain volet intéressant de voir qu'est-ce qu'ils ont pu faire. Bon, donc évidemment, nous sommes complètement indépendants de tout ceci avec Radio Grand Ciel, mais c'était simplement intéressant de souligner que, puisque c'est une émission sur l'Europe, qu'est-ce que, dans ce cadre-là... comment est-ce que l'Europe est vue par ces candidats? Et ce sera évidemment important pour le résultat de course. Donc après, on verra. Est-ce que la France restera pro-européenne ou moins européenne? Tout, c'est l'incertitude des sondages. Donc ici, on n'est pas partisan pour un parti politique, mais c'était quand même intéressant de souligner ceci.
Quels sont les thèmes, les points? Mais simplement les points, les têtes de chapitre sur lesquelles on les a notés.
Eh bien, les têtes de chapitre, c'était la gouvernance, l'économie et les finances, l'environnement et le climat, et la dimension sociale, sociétale. ils ont été tous notés sur cette dimension.
Sur ces critères-là.
Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, parce que là, il faudrait une émission directement. D'ailleurs, on pourra le voir après l'élection européenne. Mais je voulais souligner, quand même revenir, puisqu'on n'a plus beaucoup de temps pour ceci, pour dire que, néanmoins, au niveau européen, on essaie toujours de montrer l'aspect positif, évidemment. Il y a un aspect, quand même, qui est assez préoccupant, qui est la situation en Hongrie. Le fait que M. Viktor Orban ait été réélu donc le 3 avril comme Premier ministre hongrois avec une majorité inattendue. Alors, ce qui est intéressant de souligner, c'est que précisément M. Orban s'est mis à mal tout le reste, avec d'ailleurs la Pologne, des États européens, compte tenu de ce qu'il a...
De ses propos.
Propos vis-à-vis, et aussi de ses mesures contraires à la démocratie telle qu'elle est conçue au niveau européen, et notamment par ce qui est dans les traités européens, et notamment ceux des droits fondamentaux. Et donc, c'est assez préoccupant, et de voir que les seuls soutiens qu'il a reçus pour le féliciter, c'était tous les pays, les représentants d'extrême droite, et la France, c'était Madame Le Pen, qui s'est évidemment précipitée pour le féliciter. Donc on le souligne, là, on ne fait pas non plus partie de parti politique ici, mais quand même, il faut noter que toutes les dimensions d'extrême droite et souverainistes sont derrière M. Orban. Alors, la Commission européenne, compte tenu de la situation au niveau de l'état de droit, on pourrait faire une émission spéciale sur qu'est-ce que c'est que l'état de droit, c'est quand même le respect des valeurs fondamentales de l'Union européenne, signé par chacun des pays qui ont signé les traités, et quand ces pays ne les respectent pas, eh bien, ils sont en dehors de cet état de droit. Et M. Orban, comme le Premier ministre polonais, ont à plusieurs reprises mis à mal cet état de droit, et notamment en prenant des mesures sur le plan juridique qui étaient absolument contraires au traité.
Oui, mais c'est
et
vrai, par exemple.
Je termine là-dessus. Oui. Dès l'annonce de la confirmation que c'était M. Orban qui était confirmé, au niveau européen, la décision a été prise de tout de suite engager des mesures, justement pour stopper. À partir du moment où il y a cette conditionnalité des fonds européens, notamment à travers le plan de relance, d'empêcher que les fonds européens aillent dans le budget de la Hongrie. Donc il y a des mesures exprès qui ont été prises pour dire, puisque M. Orban est confirmé, eh bien on va aller jusqu'au bout sur le plan du droit, justement pour faire respecter les traités.
Oui, mais en même temps, M. Orban a pris des distances vis-à-vis de la Russie, et M. dans le...
Plus ou moins, parce qu'il n'a pas voté les plans de relance, les plans de sanctions. Il s'est mis... Il a eu une attitude tout à fait ambiguë à ce sujet.
Mais il reçoit quand même les Ukrainiens.
Il reçoit aussi des Ukrainiens, bien sûr.
Et un million, beaucoup plus, dix fois plus que nous, par exemple.
Ben oui, mais il est...
C'est la proximité. Enfin, je veux dire que là, il faut prendre tout ça, toutes ces mesures avec des pincettes et une certaine distance.
Sur le plan européen, c'était quand même intéressant de souligner que, oui, malheureusement, aussi à l'intérieur de notre Union européenne, tout le monde n'est pas nécessairement sur la même...
longueur d'onde. Voilà. Eh bien, chers auditeurs, le temps s'écoule. Nous disons, c'est regrettable vraiment de prendre une émission Bienvenue en Europe et de ne parler que de la guerre qui menace nos frontières. Mais quand même, cela montre aussi cette solidarité européenne et puis ce souci de la démocratie, de l'état de droit et donc des droits humains. Voilà quand même des bonnes nouvelles, pourrait-on
juste
dire.
Juste encore un tout petit mot pour dire que le 9 mai prochain, eh bien, ce sera la fête de l'Europe et qu'à cette occasion-là, il y aura une proposition au niveau européen pour l'avenir de l'Europe.
Chers auditeurs, eh bien, on vous dit à bientôt sur Radio Grand Ciel.